Alone.
Page à page, l'émission du livre, proposée et présentée par Claire Ambil.
Adiciats et bienvenue dans votre émission Page à Page. Nous nous retrouvons en ce vendredi 23 février sur les ondes de Radio Occitanie. Alors, aujourd'hui, je reçois Salomé. Bonjour Salomé.
Bonjour, oui.
Ah, pardon. Avec la musique, écoute, je n'avais pas entendu. Alors, tu es lycéenne en seconde au lycée Saint-Cernin à Toulouse.
Oui.
Et tu viens juste d'avoir 16 ans.
Exactement, il y a une semaine du coup.
Vendredi dernier.
Exactement.
Alors, tu étais déjà venue à Page sur Radio Occitanie le 12 février 2009. Tu avais alors 7 ans, enfin tu allais avoir 7 ans 4 jours après. Tu nous l'avais dit d'ailleurs à l'antenne. Et tu nous avais lu une histoire très rigolote qui s'appelle « Esther tout à l'envers ».
Oui, je l'ai écouté avant de venir pour me donner du courage. Hein.
Ah mais tu n'étais pas du tout impressionnée hein, quand tu avais 7 ans devant le micro jaune.
Je savais pas ce qu'il y avait derrière ce micro jaune à l'époque.
Mais il y a toujours la même chose, même 9 ans après. Hein.
Oui.
Voilà. Alors tu nous avais lu aussi des poésies et tu étais au cours préparatoire et j'avais trouvé que tu avais lu parfaitement parce que tu maîtrisais très bien la lecture. Hein. Mm. Et tu t'en rappelles de cette histoire d'Esther tout à l'envers?
Oui, oui.
Oui, voilà. Et donc, c'était un bon souvenir.
Bah oui, 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 très bon. Ah,
donc, elle est écoutable d'ailleurs, elle est podcastée sur le site de Page à Page Toulouse, pour ceux qui veulent l'écouter. On entendra la petite voix de Salomé qui avait donc 7 ans à l'époque. Alors aujourd'hui, comme je disais, tu as donc 16 ans tout récent et tu as toujours en toi cet amour eh bien, des mots, tant pour la lecture que pour l'écriture.
C'est ça.
Tu aimais lire déjà plus jeune, enfin dès que tu as su lire finalement.
J'écrivais des poésies dès que j'ai su écrire en fait, en quelque sorte.
Et donc tu as continué.
C'est ça.
Et alors actuellement tu as beaucoup de choses à dire, à crier, à dénoncer dans ce que tu écris à cet âge-là, maintenant que tu
voilà.
as. Mmh. Alors, tu as beaucoup de textes, hein, d'ailleurs, dans ton iPhone, hein, puisque tu vis quand même avec ton époque. Alors, les cahiers et les stylos, c'est fini?
Ah bah non, j'ai aussi des textes dans mes cahiers, il n'y a pas de souci. Mes cahiers de cours, par exemple. Hein,
ah d'accord, donc pendant que tu es en cours, en fait, tu écris.
Exactement.
D'accord, et tes parents sont au courant?
Je sais pas, sans doute peut-être.
Alors, avec ces textes que tu as, dans des cahiers ou dans ton téléphone portable, ont des thèmes comme par exemple la maltraitance, le harcèlement. Ce sont des thèmes forts.
Oui. Faut bien parler des choses fortes et on n'en parle pas assez de nos jours, je pense. Donc, c'est important d'en parler aujourd'hui. Voilà.
Maltraitance, harcèlement. Oui,
ça me parle.
Bien, oui. Enfin bon, tu n'es ni maltraitée ni harcelée, j'imagine.
Non.
Mais
je pense qu'il ne faut pas forcément l'être pour comprendre et être touchée par ces cas. Enfin, voilà.
C'est vrai, c'est vrai. Alors, tu fais aussi des exposés pour ta scolarité. Donc, je le rappelle, tu es en seconde et sur des thèmes qui sont très percutants aussi, puisqu'on a quand même la censure, qui est un thème important. Et puis, la prostitution.
Oui, j'ai été la seule à choisir ce thème. J'ai pris les choses en main et voilà.
Donc tu as fait des recherches sur internet?
Ah oui, beaucoup. J'ai été étonnée de voir que ce thème était assez caché. Enfin, il n'y a pas beaucoup d'éléments en fait sur internet, etc. Donc j'ai vraiment cherché pendant longtemps. Mais j'ai eu des témoignages assez frappants et... qui m'ont aidée pour mon exposé.
Des témoignages de prostituées elles-mêmes ou d'entourage, de l'entourage
de prostituées, oui, de prostituées. Voilà, donc à Paris, à Toulouse, un peu partout en France.
Donc tu as fait un exposé que tu as présenté donc, à la classe, enfin à ta classe de seconde. Et quelles ont été les réactions
Ils étaient très intéressés par le sujet. J'ai été assez étonnée parce que... Enfin, je pensais pas qu'il allait avoir autant de réactions et Tout le monde était intéressé, me posait des questions, etc. Donc voilà.
Ils ont presque regretté, eux, de ne pas avoir choisi finalement ce sujet.
Je sais pas, mais...
Non, mais il fallait oser hein, prendre ce sujet. Les autres ont choisi des sujets peut-être plus, entre guillemets, plus faciles.
Non, ils ont parlé aussi du VIH, de sujets quand même assez forts aussi, de la lutte contre l'homophobie, etc. Enfin, très fort aussi.
D'accord. Mais la prostitution, voilà, c'était un thème peut-être aussi par rapport à le fait d'être une fille. Peut-être aussi tu défends aussi la condition de la femme, finalement, aussi à travers
Oui, mais tout en respectant le choix de certaines prostituées qu'ils font par choix. Il y en a, et il ne faut pas l'oublier aussi. Enfin, il y a beaucoup de femmes qui le choisissent et faut pas les oublier non plus. Et elles se battent encore aujourd'hui pour faire entendre leur voix. Parce qu'on pense, et il y en a une majorité de femmes qui sont exploitées, qui n'ont pas choisi du tout ce métier parce que c'en est un. Mais il y en a aussi qui le choisissent, qui ont cette liberté-là.
Elles sont certainement peu nombreuses. Et effectivement, elles n'ont pas une voix qu'on entend
assez. Oui.
Alors dans tes écrits, pour en avoir lu certains, et d'ailleurs tu vas en lire ici à l'antenne tout à l'heure, tu as un style assez libre, assez une écriture singulière, avec par exemple des fois des répétitions qui sont voulues, qui sont faites exprès.
Je trouve que, pourquoi mettre un seul mot quand on peut mettre le même mot plusieurs fois, enfin.
Un peu comme un refrain, comme une musique.
C'est assez, ça revient souvent des sortes de refrains, comme une musique, on va dire, qui suit tout le long de la lecture.
D'accord. Donc une écriture très mature aussi. On a beaucoup de mal à imaginer que tu n'as que 16 ans et que tu écrives de cette manière.
Je pense que il faudrait que une de mes professeurs de littérature et société écoute ce que vous dites, car encore aujourd'hui, on ne me croit pas capable d'écrire ce que j'écris. Par exemple, en cours, on pense que je copie sur Internet parce que j'ai un écrit qui n'est pas digne, qui n'est pas tel d'une seconde, d'une fille en seconde.
Clair. Oui. Disons que certains de tes professeurs pensent que tu as plagié des textes sur Internet et que ce n'est pas toi qui les as écrits.
Voilà. Cite parce que je n'ai pas la langue de Victor Hugo, donc voilà.
C'est ce que ta professeure
exactement.
T'a dit. Tu n'as certes peut-être pas la langue de Victor Hugo, mais tu as la tienne. Tu as la tienne, voilà. Ton style propre, ton écriture propre, qui est celle de Salomé. Et voilà, et tu ne plagies pas Internet.
Non.
Et voilà, ce sont bien tes mots, tes phrases, tes textes. Alors, donc actuellement, tu es en seconde. Tu te destines à une première littéraire, puis à un bac littéraire, j'imagine.
Mm-hmm. Oui, c'est ça.
Voilà. Et tu veux donc écrire en parallèle de ton futur métier,
J'aimerais vivre de l'écriture, mais c'est vrai que c'est compliqué aujourd'hui et puis même avant. Enfin, il faut toujours un métier à côté. Donc, et puis vu que je choisis d'être, j'aimerais bien être psychologue à mi-temps, on va dire. Enfin, je trouve que ça se rapproche assez, l'écriture et la psychologie, parce que en quelque sorte, quand on est psychologue, on soigne avec la parole, et écrire, c'est aussi soigner avec les mots. Donc,
Tout à fait. Donc tu veux faire psychologue et en parallèle écrire, être publié. Et tu as même d'ailleurs choisi le pseudo sous lequel tu veux être publié.
Exactement.
Alors, on peut savoir lequel c'est ?
Sacha. Déjà, ça commence par S, donc comme Salomé. Et puis, je voulais un prénom mixte parce que je pense que appartenir à un genre, ça me correspond pas. Enfin, j'aimerais pas comment expliquer. Je veux un prénom mixte parce que c'est ni un homme ni une femme, on sait pas. Voilà. Et puis les gens n'ont pas à savoir qui je suis vraiment. Enfin, ils ont juste à lire et puis voilà. Enfin.
Tu veux garder une sorte d'anonymat, d'énigme.
Exactement. Maintenant ils savent. Enfin,
Oui.
Voilà.
Bah, bon. Boris Vian avait un pseudonyme lui aussi, c'était Vernon Sullivan. Donc,
oui.
Quelque part, même Boris Vian avait un pseudonyme. Donc, pourquoi pas, voilà, pourquoi pas avoir un pseudonyme toi aussi. Après, Sacha, oui, voilà, enfin, on sait que quand même, tu es une fille. Je pense que tu peux défendre aussi des choses de femme.
Oui, bah comme autant des choses d'hommes, hein, il n'y a pas
Oui. Donc Sacha s'adapte bien à ce que tu...
À ce que j'aspire, voilà.
Alors, on va passer à la lecture de la première nouvelle qui s'intitule « De côté de fenêtre ». Alors, je précise aux auditeurs que le thème de cette nouvelle, c'est Noël. Et puis, on en parle juste après de ce Noël de Salomé, « De côté de fenêtre ».
Alors... Noël, étoiles scintillantes, odeurs de cheminées et des sapins verts coupés, les maisons rient de bonheur, ces rires enfantins qui perdurent dans l'écho du vent. Le Père Noël qui attend minuit accroché à chaque façade, qui attend simplement la course du temps. Les enfants qui attendent leurs cadeaux patiemment. Une mère à côté de son fils, il se ressemble tel qu'un reflet sur l'eau d'une rivière, qu'un reflet perdu dans l'immensité d'un fleuve sans fond. Les deux sont bruns, le visage fin, leurs yeux pétillent comme des éclairs qui explosent en milliers d'étincelles, comme une pluie d'or. Ils se donnent tendrement des étreintes, des sourires. La petite fille rieuse là-bas, elle est blonde. Elle court partout. Son attente se fait longue, à la limite de l'angoisse. Elle se demande sûrement si elle verra le Père Noël. Cet arrêt dans le temps, qui fige et paralyse, cette excitation euphorique gagne les murs, les meubles, les tableaux de la pièce. Et s'arrête. La porte laisse entrer le paternel. Il avait mis fin à une interminable attente. Il était Père Noël. Il revenait du travail, une mallette à sa main, une alliance à son doigt. Une alliance qui brillait comme les étoiles dehors, comme la neige froide et solitaire qui attend, elle aussi, l'aurore, sa mort. Sa Benjamine se précipita dans les bras rassurants de son père, ses bras rassurants d'homme puissant. Déjà, le syndrome d'Œdipe avait gagné sa fille, déjà comme beaucoup d'autres. Une fois réunis autour d'une table garnie d'une coulée de mets de Noël, ils étaient beaux. Ils étaient pris dans un vent commun résonnant dans leurs gestes, dans leurs mots. Ils dégageaient l'amour. Un amour qui manque à certains. Un amour dont tout le monde pourrait profiter, un amour si enviable. À travers cette fenêtre, j'observais le bonheur. Il était là, assis à côté d'eux, comme un compagnon de route. Ils ne savaient pas qu'il veillait sur eux. Le bonheur. Peut-être qu'il ne le sentait pas. Moi, je l'avais connue, cette sensation. Sensation durablement brève. Nous le sentons au début et puis le bonheur devient banal. Pourtant, la contradiction est grande du fait que ce bonheur tant cherché, que tout le monde veut, devient en fait qu'une simplicité qu'on oublie, qu'on néglige et qui s'enfuit trop vite. À travers cette fenêtre, je pensais à mon parcours, à ma vie. À travers cette fenêtre, il pleuvait dans mes yeux. Pourtant, j'ai eu cette vie si facile. Mari aimant, trop facile. Le bonheur aussi avait été là, assis à mes côtés. Le matin, je me levais heureuse. Le soir, je me couchais heureuse. Routine agréable. On habitait une maison chaleureuse. J'aimais mon mari, certes d'une manière différente des premiers jours, mais plus forte, plus construite. Les fondations de la patience. Je le connaissais depuis mon enfance, depuis mes premières espérances. C'était une évidence, évidence qui danse autour d'enfants aimants. Les mois passaient comme le vent qui court, comme une cascade qui vole, et puis je voulais un enfant. J'avais vraiment une vie rêvée, une vie enviable, comme l'amour que dégage cette famille à travers cette fenêtre. J'étais seule dans le froid de Noël, j'étais seule et moi je gèle de froid. J'étais partie aussi vite qu'un Noël. J'avais marché, en marche macabre, devant la Garonne. La Garonne m'avait cueillie comme on cueille une tulipe au printemps. J'avais sauté dans son enveloppe glaciale, dans sa robe douloureuse, où s'est cachée la mort. La vie m'avait virée deux fois. Une fois, il y a quelque temps. Pourtant, je n'oublie pas. Je venais d'accoucher et j'étais heureuse, une mère ayant donné la vie. Le bonheur était encore là, assis à mes côtés. Je dormais si bien après tant d'efforts. Il veillait sur moi, vous comprenez. Mais ce bonheur s'enfuit. En ouvrant les yeux, mon bébé n'était plus. Vous comprenez, le berceau était vide et il y avait du poison dans l'air. Le poison de la trahison. mon mari avait pris ce petit bout de vie que j'avais mis au monde, que j'avais tant voulu. Je ne parlerai pas de ce que j'ai ressenti, juste 10 000 pianos, jouant en même temps une angoisse tellement puissante, une peur géante et une détresse infinie. Quand mes bras et mon ventre étaient vides, d'un enfant qu'on m'avait arraché. Et aujourd'hui j'ai sauté, j'ai laissé le fleuve me prendre, ce soir en ce 24 décembre. Ce soir de Noël, je m'appelais Jenna, j'avais 30 ans, avant. Mon mari, j'avais vu à travers cette fenêtre, ma maison, ma fille, mais pas moi. Une femme et son fils avaient pris ma place. J'étais seule dans le froid de Noël. J'étais seule et moi je gèle, gèle de froid.
Oui, alors reprendre la parole après un texte voilà, qui, dont le thème c'est Noël, mais enfin, comme les auditeurs l'ont entendu, c'est un Noël eh bien, assez particulier parce que tous les Noëls ne se ressemblent pas. C'est ce que tu as voulu faire passer comme message dans cette nouvelle ?
Oui, parce que je ne voulais pas faire une nouvelle un peu cucu, comme on dit aujourd'hui. Noël, les guirlandes, etc. C'est beau, c'est mignon, mais derrière ça, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas, pas joyeuses.
Tout le monde ne vit pas un Noël avec les guirlandes, le sapin, la dinde, bien sûr. Des gens vivent dehors, des gens vivent dans des pays en guerre, où il n'y a pas de Noël, où il n'y a pas de cette félicité, effectivement, qui correspond à l'image finale de Noël.
Ouvrir les yeux à ceux qui fêtent Noël sans penser à ce qu'il y a derrière, derrière cette fête qui paraît bien familiale, joyeuse, etc. Voilà, il y a d'autres personnes qui... Il y a beaucoup de suicides
à
Noël.
Oui, c'est vrai. C'est une période, malheureusement, où on peut constater, effectivement, un fort taux de suicides, parce que, justement, les gens sont en décalage par rapport à l'image d'Épinal de cette période de l'année festive et conviviale. Alors, après, nous avons une lettre à l'humanité. Alors, l'humanité dans le sens de l'humain.
Oui.
Donc, c'est une lettre. On en parle après. Enfin, tu m'as dit qu'il y avait une référence à une chanson. La chanson de Richard Cochanté.
Mais c'est vraiment léger. Je m'en suis rendu compte après l'avoir écrit, en fait.
D'accord.
Et ça sonnait vachement à la fin, mais je ne sais pas si ça s'entendra au micro.
D'accord. Mais enfin, donc on écoute. Donc c'est une lettre à l'humanité, donc dans le sens de l'humain.
Voilà. Humanité timide, nous pensons que tu es là, à quelques coins de rue, dans les boulevards et avenues. Tu ne te fais remarquer que par tes nombreuses associations, qui ne servent qu'à se donner bonne conscience. Les beaux slogans de la solidarité et du respect des droits d'autrui, tristes idéaux. Les chimères d'une France humaine, laissant croupir nos frères condamnés dans des blocs de béton, enfermant un enfer que nous ignorons. Eux pourtant le connaissent, l'apprivoisent. Ils ont du temps, un temps trop long pour pleurer leurs erreurs et se pendre aux barreaux de leur lit métallique. Tu n'es pas là, humanité. Que faisons-nous des droits qu'on arrache à ces hommes ? Que faisons-nous de leurs rêves, de leurs émotions, de leur vie ? Humanité, jure-le ton nom. Humanité, nous attendons ta rébellion. Comment peux-tu rester les bras ballants quand tu passes devant des milliers d'êtres humains assis au sol, l'abribus leur maison, le trottoir leur prison. Prison d'humiliation. Ils ont tout perdu. Déshumanisation. La seule petite place qu'ils occupent, ces hommes, est un bout de béton. Et pourtant, ils en sont attachés, comme enchaînés. Tous les hommes sont soumis à une prison personnelle, mais elles... sont bien plus cruelles, ces prisons sous nos yeux qu'on balaye du regard, puis ces femmes, qui vendent une partie d'elles, et qui sont humiliées, déshabillées par des policiers. Ah, la belle humanité! Et leurs agressions sont ignorées par ces mêmes policiers. Ah, les beaux gardiens de la paix! Tous les gens passent et regardent d'un œil vide, et tu en fais partie, car rien ne bouge, rien ne change. Tout est là, sous tes yeux, tu le vois, tu ne dis rien. À quand ta rébellion? Et ces millions d'hommes qui périssent de froid en attendant le matin, humanité, où es-tu ? Tu n'es point dans cette mer douce et salée, qui dévore les barques débordantes de vie endommagée par les tirs meurtriers, les obus et massacres. Le peu de vie disparaît dans cette étendue marine, et tu n'es point dans leurs bateaux, ni même dans leur pays. Pays qui se déchire et qui laisse dans les rues que du sang et des cris. Tu n'es pas là. Rien n'est humain, non, tu n'es pas là. Toi, tu bois un café dans un bar branché parisien, en attendant le pire, en attendant demain.
Oui. Alors, c'est toujours aussi difficile de reprendre la parole après tes lectures, Salomé.
C'est le but.
Oui, tout à fait, nous l'avons bien compris. Alors, oui, de prison, migrants, prostitution, là encore, enfin, tous ces thèmes qui te touchent.
Oui, et puis qui...
dont tu as envie de dénoncer le...
De dénoncer l'injustice
de leur existence, finalement. Oui. Enfin, je veux dire, le fait que tu trouves
que...
c'est
des sujets assez actuels aussi.
Oui.
Puis dont on ne parle pas assez, encore une fois.
On en parle, mais je veux dire, peut-être que tu trouves qu'on ne trouve pas de solutions.
Bon, les migrants, on en parle aujourd'hui, oui. Parce que bon, voilà. Mais on n'en parle pas de la façon dont j'aimerais
prisons,
en parler.
C'est vrai, les suicides en prison, on n'en parle pas assez.
Non.
C'est vrai.
Voilà. Puis non. Les prostituées, leurs agressions, on n'en parle pas du tout non plus.
C'est vrai, c'est un sujet assez tabou.
Voilà.
Donc toi, tu as envie un peu, t'es comment dire, une sorte de révélatrice de mise en transe, enfin, quelqu'un qui met en transe pas, enfin, qui met un peu au devant de la scène des choses que peut-être beaucoup de gens n'ont pas envie
des choses évidentes,
de voir ou de savoir, oui. qu'on a envie d'oublier ou qu'on a envie de passer sous silence. Et toi, voilà. tu es un peu le révélateur de tout ça.
C'est ça.
Alors, tu as fait une autre nouvelle, mais qu'on n'aura pas le temps de découvrir ici aujourd'hui. C'est une nouvelle sur le thème de la guerre, dans le sens universel et intemporel, c'est-à-dire il n'y a pas de repère chronologique et c'est une guerre comme toutes les guerres. Enfin, je veux dire, voilà, une guerre, toutes les guerres. Mm-hmm. Donc, on n'aura pas le temps de la lire aujourd'hui, mais c'est une nouvelle que tu as écrite, donc qui est très percutante là aussi. Et qui était destiné au départ à
un concours
d'écriture auquel tu voulais participer, tu voulais l'envoyer.
Exactement.
Et qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu ne l'as pas envoyé finalement?
Je me suis rendu compte que le sujet, le véritable sujet, faisait concrètement une page et était écrit par un écrivain. Et du coup, j'ai été assez troublée par ça. Enfin. On nous demande d'écrire une nouvelle en sachant qu'une page est consacrée au début d'une nouvelle qui n'est pas la nôtre.
Et il fallait suivre, on te donnait un paragraphe, quoi, et il fallait que tu continues l'histoire, quoi,
voilà.
En fait. Mais t'as trouvé que c'était trop long.
Oui, et puis j'ai trouvé ça un peu, on va dire, ridicule de demander de faire une nouvelle quand on écrit la moitié d'une nouvelle. Par un écrivain déjà connu. Enfin, autant lui accorder le titre de gagnant du concours tout de suite. Enfin.
Oui. Donc, du coup, tu n'as pas participé au concours.
J'ai envoyé un mail.
Tu as envoyé un mail à la place.
Exactement. Donc, j'ai envoyé un mail au gérant du concours,
oui.
en lui disant que
ce que tu viens de nous dire, quoi,
exactement,
en fait,
voilà.
Que tu trouvais que c'était
ridicule et absurde de faire le sujet, tout ce contexte là pour une nouvelle qui n'est pas nôtre au final.
D'accord. Alors, un poème qui fait référence en lui-même au déserteur de Boris Vian. Alors, il n'a pas de titre, ce poème.
Non.
J'imagine que c'est exprès.
Je mets rarement de titre.
Tu n'aimes pas trop les titres.
Non.
Voilà. Et donc, on t'écoute.
Alors, il faut savoir qu'il était dans un de mes cahiers de maths. Voilà.
D'accord. Très bien. Donc, on voit que tu adores les maths et que tu es très concentrée quand tu es en cours de maths.
Voilà. Alors... Je vivais dans les champs, je vivais dans la Somme, je fus tué d'une balle envoyée par un homme. Un homme, je dis, une âme sans vie, qui court à la perte de celle-ci. Dans un enfer qui voit le jour, que depuis un stylo, dénué de bravoure, où notre main n'est pas celle qui tient ce stylo, et pourtant notre main tient une arme aussitôt. Arme qui tue et qui prend possession, tandis que nous, nous la tenons. Commander une armée paraît bien assez lâche quand celui qui commande ne se tient pas en face de cette balle qu'on nous tend et nous attend si gentiment. Et d'une main innocente, la mort nous hante et nous sommes envoyés pour aller la trouver. On doit tuer le monde car on nous commande et on tue légalement pour le commandant.
Merci Salomé pour ce poème très révélateur. Hein. Merci Salomé surtout voilà, pour tous tes écrits, tes mots, tes révoltes. Et je ne doute absolument pas qu'un jour prochain, tu reviennes à Page à Page, ici à Radio Occitanie, sous le pseudo de Sacha, avec sous ton bras un livre, ton premier livre qui sera publié. J'en suis sûre. Alors, le temps nous rattrape malheureusement trop vite.
Oui.
Donc, je voulais simplement dire rediffusion de cette émission ce soir à 23h30 et vendredi prochain, 2 mars, à 14h30 et 23h30 sur Radio Occitanie. Le prochain rendez-vous de Page à Page, c'est vendredi 23 mars à 14h30 sur Radio Occitanie. Je recevrai Marie-Constance Mallard et Violette Mirgue, l'adorable sourisette, pour une nouvelle aventure qui s'intitule d'ailleurs « Le trésor du canal du Midi » et qui est publiée aux éditions Priva. Merci à Idriss pour la technique de cette émission aujourd'hui. Et puis on se quitte avec la même chanson que tu avais choisie il y a 9 ans, lorsque tu avais 7 ans. Voilà, donc la même chanson. Tu peux nous dire laquelle c'est ?
C'est « Dis-moi des bébés brunes ». Pardon.
Alors pourquoi le même choix d'il y a 9 ans ?
Elle a bercé mon enfance en quelque sorte et puis elle revient. Enfin, je l'ai toujours dans la tête. Malgré les années qui passent, c'est une fièvre adolescente qui perdure en fait dans le temps. Donc qu'elle soit à la radio,
il y a 9 ans.
Il y a 9 ans, pardon. Et maintenant, enfin,
c'est pareil.
C'est pareil.
Et alors je me rappelle que justement, il y a 9 ans, quand je t'avais demandé pourquoi tu avais choisi cette chanson, tu m'avais répondu que tu trouvais que le chanteur des Bébés Brunes était beau et qu'il chantait bien. Alors est-ce que c'est toujours ton avis ?
Oui, il n'a pas changé.
Il a peut-être vieilli un peu, quoi. Il a pris 9 ans de plus.
Oui, bon, après 9 ans, ça se voit pas trop.
Et il chante toujours aussi bien.
Oui.
Bon. Ricardo, qui est à côté de toi, pense la même chose ?
Exactement.
Bien. Alors on va se quitter donc en écoutant Dis-moi des Bébés Brunes. Merci Salomé d'être venue à Page à Page. Et puis j'espère à bientôt.
À bientôt.
Sous le pseudo de Sacha.
J'espère.
Adiciats.
Une légère envie de violence quand elle relâche ses bas. Je ne suis plus à Vendruna, je ne suis plus comme ça. De rumeurs adolescentes disent que je ne suis pas à toi et je pense qu'une part de vrai se cache. Dis-moi si je dois partir ou pas. Dis-moi. Dis-moi si tu aimes ça ou pas. Car je suis fou de toi. Quand tu ne m'appartiens pas. Une violente envie de descente lorsque t'embrasses ces gars. Je ne ferai point l'enfant, tout cela ne m'atteint pas. Des rumeurs adolescentes disent que je ne suis pas un homme à femme et rien d'autre qu'un homme à toi. Dis-moi si je dois partir ou pas. Dis-moi. Toi, Una, quand tu ne m'appartiens pas. Attache les bras. Quand je fais sautiller sa frange, ses cris se tirent dans les graves. Quand le voyeur en redemande, moi je ne veux que Una. Les plus belles des plus belles jambes et de la place pour trois. Dis-moi si je dois partir ou pas. Dis-moi. Dis-moi si tu aimes ça Una. Tu ne m'appartiens pas.